Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et mardi oblige. Quentin et Pierre-Antoine seront ce soir à bord à mes côtés pour parler géopolitique et politique. Et Clarisse, notre stagiaire de la semaine pour l'agenda de la fin de l'émission. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, nous entendrons également Caroline Carré de la Paperie, le Centre National des Arts de la Rue, et Renaud Biry de la compagnie Décor Sonore qui présente vendredi sa création sonore Urbaphonix, place du ralliement, à 19h. Ensuite, nous embarquerons avec Loane Green et son artefact, un reportage dans les coulisses d'un atelier que vous entendez habituellement dans l'Artichaut, un mercredi sur deux. C'est avec joie que nous l'accueillons dans le sous-marin cette semaine. Et parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Elle commence à nous manquer sérieusement. Nanette n'a pas chaussé son scaphandrier aujourd'hui, mais nous la retrouverons très vite pour un billet d'humeur. On commence donc ce sous-marin avec une petite pause musicale, l'impératrice avec le Baron Rouge.
Thank you.
Vendredi soir, place du ralliement, à 19h, la compagnie Décor Sonore présente son spectacle Urba Phonics, une pièce de musique concrète avec en guise d'instrument le mobilier urbain, les corps, l'extérieur, bref, la ville. Une expérience musicale et conviviale. Renaud Biry de la compagnie Décor Sonore et Caroline Carré de La Paperie nous en parlent. Je suis en compagnie de Renaud Biry de la compagnie Décor Sonore et de Caroline Carré de La Paperie pour une interview dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, la compagnie Décor Sonore présente ce vendredi, et à partir de demain pour les scolaires, mais ce vendredi, place du ralliement à 19h, Urba Phonics. C'est une performance, une pièce de musique concrète. L'idée, c'est de faire de la musique à partir de ce qui est présent dans la ville, le mobilier urbain, les bruits de la ville, les corps. Renaud Biry, vous qui faites partie de cette compagnie, comment est-ce que vous pourriez définir le spectacle ?
Je dirais que c'est toujours l'obsession qui est la nôtre à Décor Sonore, c'est de réentendre, apprendre à réécouter ce qui nous entoure. On est dans un monde où il y a énormément de sons, où l'homme génère énormément de sons, et donc on a tendance à fermer nos oreilles pour se protéger. Et on est un peu reparti d'une phrase de John Cage qu'on aime beaucoup, qui disait « Moi, quand je veux écouter de la musique, j'ouvre ma fenêtre ». Et on s'aperçoit en fait qu'à partir du moment où on prête attention aux sons qui nous entourent, ils deviennent beaucoup moins désagréables. Et même si on apprend à en jouer, ça devient carrément intéressant, quoi. Donc c'est un petit peu l'obsession qu'on a. Et Urba Phonics, c'est un petit peu cette envie de faire redécouvrir ce qui nous entoure, non seulement ce qui atteint nos oreilles, mais aussi tous les sons dont on ne soupçonne pas l'existence et qui sont cachés, notamment dans le mobilier urbain.
Alors, vous vous présentez sans instrument traditionnel, comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire pas de guitare, pas de batterie, pas de piano, rien du tout, juste le mobilier urbain. Donc là, vous êtes en train de faire les repérages, vous êtes arrivé cet après-midi. Comment est-ce que ça se passe pour créer cette pièce ? Est-ce qu'il y a une trame ou est-ce que c'est de l'impro total ?
Alors, c'est pas de l'impro total, hein, parce que l'idée, c'est aussi d'apprendre à se servir de ces fameux instruments qui sont présents. On commence à avoir un peu une expérience, on subodore les sons qui peuvent exister à l'intérieur d'un garde-corps, d'une barrière, mais avant de pouvoir le donner à entendre comme on aime le donner à entendre, il faut l'explorer, il faut le travailler. C'est un peu comme un violoniste, quand on commence à apprendre le violon, c'est toujours un peu ingrat au début. Et il faut passer un petit peu de temps à apprivoiser cet instrument. En l'occurrence, nos instruments, ça va être des vélos, des poubelles, effectivement des garde-corps, des choses comme ça. Donc ce repérage, il est là pour préhender même l'instrumentarium sur le parcours qu'on dessine avec les gens qui nous accueillent.
Alors, vous m'expliquiez tout à l'heure, hors micro, qu'en fait, vous arriviez à vous accorder que les musiciens arrivaient à s'accorder, les performeurs, entre eux, à partir de codes, c'est-à-dire les triolets, ce genre de choses, pour qu'il y ait une trame. Mais en fait, d'une ville à l'autre, ça fait 2 ans que le spectacle tourne, d'une ville à l'autre, il n'y aura jamais la même pièce, au final.
Alors, jamais, puisque, effectivement, d'abord, chacun des objets, des instruments qu'on donne à entendre, il n'a pas la même longueur, il n'est pas fait dans la même matière, il n'est pas au même endroit et il ne vit pas dans le même environnement acoustique. Hein, donc tous les sons qu'on pourra entendre par exemple vendredi soir, dans l'ordre dans lequel on va le jouer et dans la nature des sons, ce sera quelque chose d'unique et d'éphémère.
Vous vous inscrivez dans le principe de John Cage, vous le citiez tout à l'heure, il y a une autre phrase, c'est « si le son vous dérange, écoutez-le ». Et en fait, vous allez faire avec ces sons qui vous dérangent parce que ça fait partie de cette pièce-là.
C'est ça, c'est l'idée aussi, le fait de soudainement donner à voir et à entendre un vélo, la sonnette d'un vélo, mais aussi jouer les rayons de la roue avec un archet. C'est aussi et surtout pour tenter d'harmoniser un petit peu ce son-là avec les sons existants de l'environnement sonore. Comme je disais un petit peu en introduction, l'environnement sonore, notamment urbain, il est souvent très agressif. Et une manière de le redécouvrir et de en faire quelque chose d'agréable, eh ben, c'est de jouer avec. C'est pas de jouer contre. Si on commence à essayer de lutter contre une rumeur urbaine, on perd, c'est sûr. On peut pas s'en sortir. Par contre, si on s'appuie dessus, si soudainement la cloche du tram, si soudainement le marteau-piqueur des travaux, il est harmonisé avec un objet, avec un glissando sur une rambarde, et ben soudainement il prend de la valeur. Et c'est cette espèce de valeur ajoutée qu'on veut donner à l'environnement sonore qu'on parcourt, quoi. C'est un peu la mission.
Est-ce que je peux vous donner quelques exemples de mobilier urbain ou de choses qu'on trouve place du ralliement, par exemple? Et vous pouvez me dire ce qu'on en fait pour faire de la musique. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec une fontaine?
Alors, avec une fontaine, d'abord, on coupe l'arrivée d'eau de la fontaine. Parce que c'est un son qui, souvent, est pénible parce qu'il est constant. Il varie peu, c'est une grosse brume. Alors, soit on joue avec dans les mêmes modes, soit on la coupe et on fait redécouvrir l'eau, simplement l'eau stagnante, avec des jeux de baguettes à l'intérieur, en mettant ça en écho avec le reste. Soudainement, on se rend compte que l'eau, à partir du moment où il pleut un peu, elle est partout. Elle est sur l'escalier, elle est sur les escalators, elle est contre les vitrines. Des fois, l'eau, elle révèle des sons, elle révèle des choses. Elle transforme complètement l'acoustique d'une cour, d'une place. Encore une fois, c'est se servir de cette fontaine pour redonner à entendre. Après, j'ai pas malheureusement le talent des musiciens, eux, qui savent bien mieux en jouer que moi.
Avec une vitrine, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, avec une vitrine, très souvent, c'est une grande membrane, une vitrine. Donc, une membrane, ça peut être, on peut s'en servir comme d'une timbale, par exemple. Donc, on peut la cogner avec le doigt, avec une petite maillotche, mais on peut aussi la frotter pour créer cette vibration qui va faire un son qui va évoluer en fonction de la vitesse. C'est d'ailleurs l'une des choses qu'on va voir avec les scolaires, c'est qu'il suffit pas d'amplifier un objet pour que ça fasse de la belle musique. Il est vraiment question d'un geste instrumental. C'est pour ça que ceux qui interviennent sur ce parcours, les joueurs du Urbaphonics, ils ont un vrai talent pour faire sonner les objets. Et c'est comme le violon dont on parlait tout à l'heure, ça s'apprend, c'est un vrai travail. On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Et c'est le sens secret, si j'ose dire, un petit peu de notre travail, c'est qu'il ne suffit pas que d'écouter pour donner à entendre, il faut aussi bien jouer de ces instruments-là, quoi.
Et en termes de sonorisation, comment ça se passe, puisque c'est un spectacle ambulant en extérieur?
Alors, on a, avec mes collègues, on a conçu un système qui est autonome en énergie. On l'a voulu au niveau scénographique, au niveau décoration, très neutre. Ça ressemble à des espèces de valises de voyageurs. Et la grande virtuosité de ce système, c'est qu'il nous permet d'intervenir très vite et de disparaître très vite. Et encore une fois, ça va dans cette démarche de quelque chose d'éphémère. Quelque chose qui va exister ici et maintenant et qui se reproduira plus jamais. On avait même imaginé faire carrément quelque chose qui était presque de l'ordre du commando. C'était d'arriver, de sortir, de jouer 5-10 minutes et de redisparaître, quoi. Ce qu'on a fait 2-3 fois de manière assez heureuse. Et le fait aussi que tout le système soit sans fil, ça nous permet une très très grande liberté, quoi.
Dans le dossier de presse qui présente le spectacle, il est écrit que la stratégie de rencontre avec le public doit éviter toute convocation, annonce de lieu et même d'horaire. Là, vous donnez pourtant rendez-vous place du ralliement à 19h vendredi. Est-ce qu'il faut s'attendre à être surpris?
Alors oui, enfin je l'espère en tout cas. L'idée, c'est qu'on reçoit vraiment les choses de manière émotive, au niveau des émotions. On les reçoit vraiment quand on ne s'y attend pas. Et c'est aussi une autre des obsessions de la compagnie, c'est d'arriver à surprendre. Dans l'idéal, on aimerait ne convoquer personne. Et ça fait toujours des événements beaucoup plus magiques que si on est prévenu. La preuve en est que tout à l'heure, on était en repérage un peu plus bas sur la place du ralliement. On n'avait prévenu personne. Et, immédiatement, des gens s'arrêtent, se posent des questions. Voilà, ça pour nous, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est ce qu'on aimerait faire tout le temps. Après, pour plein de raisons, on est souvent obligé de convoquer le public. Et tant mieux, hein, c'est pas forcément un mal. Par contre, on essaye, nous, de le surprendre dans la manière dont on va apparaître. Quand les gens vont arriver sur la place, j'espère qu'ils ne nous verront pas. En tout cas, j'espère qu'ils ne nous verront pas tant qu'on n'aura pas fait un son, un joli son. Voilà. Et là, j'espère qu'ils nous découvriront.
Ça fait 2 ans que le spectacle tourne. Quels sont justement les retours du public ?
Alors, ils sont en général assez bons. Enfin, là, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais parce que, encore une fois, les gens ne s'attendent pas à ça. Et on avait peur au début du côté... ça pourrait sembler agressif de jouer d'une barrière, mais on s'est très vite rendu compte que la manière dont on en jouait, et la qualité sonore qu'on y mettait, faisait que ça n'était en aucun cas une agression, mais justement quelque chose qui apaise et qui harmonise l'environnement sonore. Et bon, y a certainement des gens qui ont été déçus, pour être déçu, il faut s'attendre à quelque chose, mais en tout cas qui n'ont pas été emballés par ce qu'on leur proposait, c'est normal, mais d'une manière générale, les gens sont plutôt très étonnés. Et une grande force aussi, c'est que ça touche tout le monde. Enfin, c'est dans l'espace public, donc c'est gratuit. Et on s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc il y a une espèce de consensus commun en général par rapport à cette écoute-là, quoi. J'espère en tout cas.
Caroline Carré, je me tourne vers vous. En quoi c'était important de faire venir la compagnie Décors Sonores à Angers pour qu'elle présente ce spectacle aux Angevins ?
Alors, on a pensé à programmer la compagnie Décors Sonores avec son spectacle Urbaphonics dans le cadre d'un partenariat avec Angers Nantes Opéra. En juin dernier, Camille Petitet, qui s'occupe de l'action culturelle d'Angers Nantes Opéra, est venue nous chercher pour savoir comment on pouvait travailler ensemble autour d'un opéra, l'opéra du Chat Perché. Elle avait pensé en fait à travailler avec la Paprie parce que cet opéra en fait contient une partie de pratiques circassiennes et également de danse hip-hop. Et l'idée, c'était de proposer à des classes élémentaires du département un parcours qui les amènerait à découvrir le Chat Perché, mais un parcours associant d'autres disciplines artistiques et qui puisse être soit une grille de lecture, soit des points de vue, des contrepoints de vue. À la Paprie, donc le Centre National des Arts de la Rue, on défend des disciplines diverses, des productions qui peuvent associer certes de la danse dans l'espace public, de la vidéo, des formes très très diversifiées, mais on n'avait surtout pas justement envie de tomber dans l'évidence, à savoir proposer une rencontre avec une compagnie circassienne ou de danse. On avait plutôt justement envie d'être un contrepoint de vue à ce que peut être la musique écrite, la musique qu'on écoute et qu'on découvre aussi dans un lieu clos qui là sera en l'occurrence le Grand Théâtre d'Angers. Donc Urbaphonics, c'était pour nous l'occasion de proposer à ces élèves voilà tout un tas de différences, à la fois sur ce principe de déambulation, puisque Urbaphonics déambule dans la ville, et bien évidemment quand on marche on n'écoute pas la musique de la même manière, le côté totalement unique aussi des représentations, enfin voilà, pour des tas de choses, à la fois sur la mobilité, sur la déambulation, sur la non-écriture figée aussi de la partition musicale. Et quelque chose aussi qui nous intéresse réellement à la Paprie, c'est comment toutes ces esthétiques, comment toutes ces créations de spectacles puisent dans l'espace public, se servent, composent, jouent et contournent également parfois les contraintes de l'espace public.
Alors la Paprie, vous le disiez, c'est le Centre National des Arts de la Rue qui est situé à Saint-Barthélemy d'Anjou, donc vous avez plusieurs rôles, vous accueillez des résidences, vous avez aussi un rôle de diffusion culturelle et de sensibilisation des publics, et donc vous le disiez, ce spectacle va s'adresser aux scolaires là pendant 3 jours. Est-ce que les enfants sont en général plus réceptifs au spectacle des Arts de la Rue que les adultes ?
Oh, j'espère pas. On aura l'occasion d'en faire certainement un bilan, mais non, je pense qu'il n'y a absolument pas d'âge et différents degrés de lecture. Non, du tout. Alors, il y a trois séances en journée, voilà, qui sont destinées au public scolaire. Nous accueillerons 8 classes essentiellement d'Angers et de son agglo. Et puis donc la séance, justement, tout public, parce qu'on imagine et on espère aussi que les enfants puissent être prescripteurs d'une rencontre avec Urbaphonix et d'une rencontre également avec ses musiciens, puisqu'à l'issue de ces concerts déambulation en journée, aura lieu aussi des ateliers, une rencontre plus à la fois conviviale et plus poussée, justement, sur la démarche de comment une compagnie s'inscrit dans l'espace public, comment elle crée, comment elle joue. Et j'espère que ces enfants, justement, pourront être prescripteurs d'une envie, d'un moment.
À Angers, il y a un festival phare en termes d'art de la rue, c'est les Accroche-Cœur en septembre. Est-ce que vous trouvez que la ville est suffisamment investie dans ce domaine-là ?
La ville, l'espace public en lui-même. Je pense que c'est toujours bien de se poser les questions de ce qui est fait, de ce qui reste également à faire. Les accroche-cœurs, ça répond à un moment de fête et de convivialité partagé par habitude par des milliers d'Angevins. Après, je pense que la limite également des accroche-cœurs, c'est d'être justement sur une régularité, sur un rendez-vous certes qui doit exister, mais ça serait intéressant que la ville d'Angers aussi puisse avoir d'autres temps de rencontres, et notamment justement avec des propositions telles qu'Urbaphonix, où certes aujourd'hui nous avons communiqué sur ce lieu de rendez-vous, sur cette date et sur ce lieu, mais sur des propositions aussi qui peuvent surprendre réellement le passant et pas forcément justement le public qui a fait son choix dans son programme et qui est venu 2 heures avant pour voir quelque chose, et que c'est surtout une complémentarité des propositions artistiques, mais également des temps possibles de spectacle tout au long de l'année.
Dans l'actualité de la Paprée également, au mois de février, il va y avoir la Folie Kilomètre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce spectacle qui aura lieu le 23 février, il me semble ?
Alors effectivement, la Folie Kilomètre, c'est un projet... Alors le collectif s'appelle la Folie Kilomètre, elle vient donc de Marseille. Le projet s'appelle 10 215 mètres parce qu'il se trouve que 10 215 mètres, c'est la distance la plus grande qui va d'un point à l'autre dans Angers. Ce sont les deux points extrêmes, et c'est un collectif en fait qui a été invité dans le cadre d'un partenariat. Oui, bien évidemment il y a des partenaires, mais en tout cas c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 des cultures de la ville d'Angers. C'est un petit peu le premier projet en tout cas en mode opérationnel qui réfléchit avec les Angevins sur redécouvrir aussi son paysage, sur la notion de balade à travers la ville, sur la notion aussi d'abécédaire. Enfin, c'est un projet qui est encore en train de se construire et où la restitution donc sera le dimanche 23 à travers une balade d'une heure et demie en continu sur cette journée.
En attendant, d'ici là, ce sera vendredi soir, 19h, place du ralliement Urbaphonix avec la compagnie Décor Sonore. Merci Renaud Biry et Caroline Carré d'avoir répondu aux questions de Radio Campus.
Merci beaucoup.
Merci et à vendredi.
Vous entendiez donc Renaud Biry de la compagnie Décor Sonore et Caroline Carré de la PAPRI, le Centre National des Arts de la Rue. Rendez-vous donc vendredi, place du ralliement à 19h pour écouter et voir Urbaphonix. Tout de suite, une petite pause musicale avec Pégase, Ladybug. vous écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers et le mardi, dans le sous-marin, c'est Géopolitique, l'occasion de sortir la tête du sous-marin et de regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières avec Quentin. Aujourd'hui, Quentin, tu jettes un œil du côté de la Syrie où le conflit a commencé il y a 3 ans et où l'on compte déjà 130 000 morts. Et depuis une semaine, la Suisse fourmille entre le Forum mondial de Davos qui se terminait samedi dernier et le sommet Genève 2, ça ne manque pas de grosses huiles, Genève 2, Kesako.
Les différents belligérants dans la guerre civile syrienne cherchent une sortie de crise. Oui, le gouvernement syrien, les divers mouvements de rébellion et les représentants de pas moins de 40 pays vont tenter de trouver une solution à la confusion qui règne après 3 ans d'un conflit meurtrier et complexe. Le débat va probablement s'articuler autour de l'hypothétique constitution d'un gouvernement de transition, seule voie possible pour retrouver un semblant d'ordre avant la tenue d'élections libres. Hier déjà, les divers partis en jeu ont parlé de la création d'un couloir humanitaire pour évacuer des civils victimes des conflits dans les zones sensibles. Ils n'y ont pas réussi à s'entendre. Ni le gouvernement syrien, ni l'opposition ne sont venus dans un esprit positif. Aucun ne souhaite perdre la face et faire la moindre concession. Les rebelles ont posé comme condition sine qua non que Bachar parte définitivement et dès maintenant. Bachar al-Assad, quant à lui, le président syrien, veut faire partie du gouvernement de transition qui organisera la suite des événements. C'est normal, au début des négociations, d'affirmer ses positions, mais en l'occurrence, les diverses péripéties qui ont eu lieu avant la conférence décrédibilisent ce sommet qui est voué à l'échec. La seule opposition présente, la coalition nationale syrienne, n'a définitivement validé sa présence qu'une paire de jours avant le début de Genève, et Bachar al-Assad n'a de cesse de montrer son hostilité envers toute contestation de son autorité. Il joue également avec la communauté internationale depuis des mois.
Tu ne sembles pas très optimiste.
C'est aussi l'état d'esprit rapporté de la rue syrienne. La conférence Genève 2 ne suscite aucun espoir, les Syriens sont lucides, et cela vaut mieux. La majorité d'entre eux ne sont même pas représentés en Suisse. La coalition nationale syrienne, laïque et la minorité chrétienne le sont, mais derrière ceux-ci ne se retrouve qu'une infime partie du peuple syrien et des belligérants. L'Iran, soutien d'Assad et du Hezbollah, n'est pas présent. Diverses minorités, comme les Kurdes, ont été oubliées. Surtout, le plus gros des forces armées, le Front islamique, regroupé derrière le Conseil national syrien, est le grand absent. Si d'aventure un accord venait à être signé, il n'aurait aucune légitimité sur le terrain et les combats se poursuivraient. Une autre composante doit également être mentionnée. Les djihadistes pourrissent encore un peu plus la situation. Deux factions sont sur place, Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et une organisation appelée l'État islamique en Irak et au Levant. Ces derniers combattent aussi bien le régime en place que les autres armées rebelles et sont moins bienveillants à l'égard des populations. La cristallisation d'un réseau terroriste en Syrie contribue également à exporter le conflit et l'instabilité aux pays voisins, le Liban et l'Irak notamment. Mais les tensions vont dans les deux sens et l'éternel rapport de force entre sunnites et chiites a trouvé sa vitrine en Syrie. Dans cette rivalité, on retrouve les soutiens d'un côté de l'Arabie Saoudite et du Qatar et de l'autre de l'Iran. Tous cherchent, par des moyens diplomatiques, financiers ou matériels, à peser sur la balance. Aucune des deux parties n'y réussit, et personne ne semble pouvoir prendre l'ascendant sur le terrain. Comme la situation diplomatique, la situation militaire est bloquée.
Pendant ce temps, les comptes sinistres des victimes et des réfugiés ne cessent d'augmenter.
Pour avancer, la balance doit être déséquilibrée, et de préférence vers le plateau des rebelles et non vers celui du dictateur en place. Comment ? Contrairement à la situation au Liban il y a 25 ans, il n'existe pas de puissance avoisinante capable d'aider significativement un bord ou l'autre. Ironiquement, à l'époque, c'est la Syrie qui avait joué ce rôle. Non. Aujourd'hui, l'ONU, un autre pays arabe ou une puissance occidentale doit intervenir sans concession. L'opposition à Bachar al-Assad doit être restructurée pour devenir performante sur le terrain. Des actions doivent être mises en place pour combattre le terrorisme et accompagner la création d'un gouvernement légitime.
Sans intervention extérieure, on imagine aisément que la situation peut continuer à s'enliser. Merci beaucoup, Quentin, on te retrouvera la semaine prochaine. Tout de suite, je vous propose de retrouver Artefact, que vous entendez habituellement un mercredi sur deux dans l'Artichaut. Cette semaine, Loane Green est allée à la rencontre de Jean-Baptiste André et Jérémy Pogu, deux artistes dessinateurs, graffeurs et plasticiens qui préparent actuellement une exposition, Canopée, qui a lieu à la maison Paille Paille en partenariat avec l'association Goop. C'est dans leur atelier à l'enceinte qu'il est allé les rencontrer, un hangar où, dit-il, il fait étonnamment plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le volume généreux de l'endroit leur permet de produire cette grande installation découpant et traversant les étages de la maison Paille Paille, de la cave au salon.
Artefact. L'atelier. Rencontre avec Jean-Baptiste André et Jérémy Pougu lors de la préparation de leur exposition Canopée qui a lieu ce week-end à Pai Pai, Angers. Merci de m'accueillir dans votre atelier, à l'enceinte. J'ai cru comprendre qu'il y avait une expo qui se préparait à Pai Pai. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Bah ouais, donc voilà, il y a une exposition qui se prépare à la maison Pai Pai. Donc c'est tenu par l'association Pai Pai. C'est une maison avec plusieurs étages, avec une colocation. Et on a été invité par l'association Goop à exposer là-bas. Donc il y a un partenariat entre les deux associations et... Et voilà, du coup, JB et moi, on va exposer là, vendredi, vernissage à 19h à la maison Pai Pai.
C'est où Pai Pai ?
49 rue du Pré-Pigeon, donc voilà, juste à côté de la boîte aux lettres, portail bleu.
Et vous pouvez me parler un peu de l'expo ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment ça s'appelle ?
Alors pour cette expo, on a choisi de changer un peu d'habitude. D'habitude, on fait un peu plus de l'illustration et de la peinture. Et ce coup-ci, on s'est lancé sur... On a décidé de bricoler, vu que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. Donc on a voulu passer en volume. Et donc là, on va faire une installation qui est avec une partie qui sera dans le salon et une autre partie qui sera en sous-sol. Et on essaie de faire en sorte que ça se réponde un petit peu, les deux parties se répondent.
Et du coup, le titre de l'expo, c'est Canopée ?
Ouais, c'est ça.
Parlez un peu de... C'est quoi la canopée pour vous ?
Bah, en fait, la canopée, c'est la strate supérieure dans les forêts denses d'Amazonie et puis d'ailleurs aussi. Et en fait, c'est vraiment la dernière couche, en gros, qui est la plus dense et qui ne laisse pas passer la lumière dans les étages inférieurs. Donc, il y a vraiment cette idée de strate. On trouvait ça intéressant vu qu'on travaille sur plusieurs étages, enfin, rez-de-chaussée et puis la cave. Du coup, il y avait vraiment cette idée de canopée avec une partie à la lumière et une partie dans l'ombre. Donc, sans trop en dire, voilà, il y a vraiment un jeu avec ça, quoi, en tout cas. Parce qu'en fait, c'est une sorte de structure qui va...
Qui passe de la cave...
Voilà, il y a un lien entre les deux, quoi. Voilà, okay. C'est ça.
Canopée, du coup, ça veut dire autre chose, en creusant un peu plus dans votre manière de travailler
Bah, il y avait un peu l'idée de à la lumière et à l'ombre. Et vu qu'on est un peu, on peut le dire, on est un peu des dinosaures, on diffuse rien sur Internet, voilà, on est toujours à peu près resté dans l'ombre. Et là, du coup, aujourd'hui, on fait un truc qui est entre guillemets à la lumière. Donc, bah ouais, on trouvait que ça s'appliquait bien à l'installation qu'on va faire et aussi à nous, à notre manière de fonctionner.
Mais vous avez déjà fait des volumes un petit peu ?
Ouais, en fait, on a quand même bidouillé pas mal de choses. Et puis, en fait, ça faisait longtemps qu'on voulait. Tous nos petits délires qu'on aime bien mélanger, que ce soit sur papier, sur grand format, en mur, voilà, on voulait en fait, on a profité de l'occasion d'être dans un lieu un peu particulier pour pas montrer ce qu'on fait d'habitude, mais vraiment de se dire voilà, on expose tant, enfin à telle date, et du coup c'était de shooter une installation en volume. Voilà, avec cette contrainte de temps
en trois semaines. Ouais, c'est ça. On aurait pu se conforter d'en arriver et puis accrocher comme ça peut se faire de manière classique, arriver à accrocher plein de choses au mur. Et là, bah, c'était un défi pour nous de passer en volume, réussir à obtenir l'esprit qu'on voulait. Et voilà.
Et voilà, ouais. Je pense que pas mal de gens nous attendent sur du dessin ou alors de la peinture, mais du coup, voilà, on voulait un peu sortir de nos habitudes entre guillemets. Et c'était quand même quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis longtemps. C'était la bonne occasion, quoi, en gros, quoi. Après, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, et mine de rien, le fait de vraiment de bosser sur un truc de A à Z à deux, c'était hyper intéressant. Essayer de surpasser les prises de tête, et puis les. c'est ça, ouais. Pas de guerre d'ego, surtout pas, quoi. Quand on pense travail duo, c'est vraiment pas moi je fais ma partie, toi la tienne. C'était vraiment une sorte d'échange continu sur les trois semaines.
Ouais.
Donc voilà, donc beaucoup de temps à prendre des décisions à deux et
à discuter,
beaucoup de blabla, hein. Beaucoup de blabla, c'est clair. Après, pas trop quand même, mais un peu quand même.
Ouais, donc voilà,
ouais, vous avez carburé quand même.
Ouais, on a carburé, mais bon, il y a eu des petites périodes difficiles. Hein. Des fois, on s'engueulait, chacun restait dans son coin une petite heure, revenait sur le truc. Bon, ok, on se met d'accord.
Ah, excuse-moi, j'étais con. Ouais, bon, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Mais ouais, je comprends pas des fois pourquoi tu me montes en pression comme ça. Je te dis, ouais, désolé. Ouais, puis la fatigue aussi, vu que c'est quand même non-stop. Dans un milieu, à l'atelier, il fait hyper froid. Là, c'était. Bon, on n'a pas eu un hiver hyper froid, mais. Mine de rien, c'était pas mal humide.
Ah, ça y est, parle de la météo. Et merde.
Et voilà. mais qu'est-ce que tu veux, quoi.
C'est vrai que dans l'idée, confronter deux exigences qui sont pas placées pareil, c'était pas facile. Donc c'était l'histoire de faire l'équilibre et de faire la balance. C'était aussi ça le défi, quoi. Surtout pour nous, quoi. Donc,
Moi, je suis assez content en fait de toutes les personnes qu'on a rencontrées à travers ce projet. Donc que ce soit les gens de l'association PayPay et notamment Antonin qui quand même nous a fait confiance et nous a laissé carte blanche, qu'on lui avait dit ouais voilà on part à l'étranger mais quand on revient on fera tout sur place, enfin on fera tout au retour, et il était là non mais vous faites ce que vous voulez hein, c'est vous assumez après hein, machin, donc voilà, il y a ça, il y a aussi Lucille, Nico de l'association Goop aussi, ouais. Voilà, qui nous ont quand même fait confiance, puis on a eu quelques coups de main aussi, notamment sur la partie sonore, avec ouais. Geoffroy, là, le copain Lucille, qui heureusement qu'il est là, parce que le son, c'est pas des choses qu'on travaille habituellement. Généralement.
Okay. Et le son, là, le son et lumière, c'est la première fois vraiment que vous faites ça
Ouais.
Ouais, parce que c'est vrai que d'habitude, on est vraiment plus porté sur
l'image.
Ouais, sur vraiment l'image, le visuel, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y a ces nouvelles dimensions qui viennent et ça. Bah, c'est ça, on patauge, on essaie, quoi. On teste. Okay.
Voilà.
L'atelier, là, l'enceinte, vous pouvez me parler un peu de ce lieu, c'est quand même un lieu important pour vous. Vous vivez ici, quoi.
Ouais, c'est un lieu qu'on a récupéré avec le collectif, qui s'appelle Blast, il me semble maintenant, qui a été mis à notre disposition. On est 4-5 à partager cet atelier. C'est un gros hangar brut, quoi, ça nous plaît, quoi, parce qu'on peut vraiment envoyer dans tous les sens sans avoir peur d'animer le lieu. Après, c'est un lieu qui est un peu en sursis parce que il est situé dans un quartier qui est en pleine réhabilitation. Donc, ce qui fait qu'à tout moment, on sait qu'on peut recevoir un papier qui nous dit qu'on devra partir soudainement. Donc là, on est assez content de cette expo aussi. C'était l'occasion d'exploiter le lieu et puis de développer des volumes vraiment plus gros.
Si vous aviez pas eu cet espace, vous auriez pas pu
Concrètement, on aurait bossé chez nous, ça aurait été très compliqué de pouvoir développer ce travail-là, quoi.
Ouais, ça aurait pas du tout pris la même tournure, je pense, quoi. Là, on savait qu'on pouvait démarrer un truc, le laisser dans un coin, laisser sécher, repartir sur d'autres.
Prendre de la place aussi, ouais. Beaucoup, là. On a installé beaucoup de bordel, mine de rien. Ouais. Entre le carton, les machins, les trucs, il y avait plein de.
Ouais, j'ai jamais fait autant de ménage, quoi. C'était vraiment.
Ouais, JB, c'est le roi du balai maintenant.
Au moins, ça leur a apporté quelque chose.
Vous écoutiez Artefact, un reportage de Lohan Green habituellement diffusé dans l'Artichaut. Le vernissage de l'exposition présentée a lieu ce vendredi 31 janvier. C'est donc à la maison PayPay, 49 rue du Pré-Pigeon. Ne traînez pas car l'expo ne dure que le temps du week-end. Comme chaque mardi, voici la chronique politique de Pierre-Antoine. Dimanche dernier, le 26 janvier, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du collectif Jour de colère pour dénoncer la politique du gouvernement. En vrac, la destruction de la famille, le matraquage fiscal, l'atteinte à l'identité nationale, à la liberté d'expression. Entre 17 000 selon la police et 160 000 personnes selon les organisateurs ont donc défilé à Paris entre place de la Bastille et place de l'Opéra.
Ratisser large pour mobiliser ? Peu, c'est le constat qu'ont dû faire les organisateurs du jour de colère des semaines que le front anti-Hollande clamait ce qui devait être une révolte nationale, des semaines qui nous prédisaient des centaines de milliers de personnes dans les rues, des semaines que l'on nous promettait une mobilisation au moins équivalente à celle des manifs pour tous. Et quelle déception, hein, malgré de nombreuses revendications, trop nombreuses peut-être, le jour de colère n'a pas su rassembler. Enfin si, quand même, hein. Pour la première fois de notre histoire, des cathos tradis de Civitas ont défilé côte à côte avec les nationalistes d'extrême droite, les collectifs anti-mariage gay, les bonnets rouges et des jeunes de banlieue partisans de Dieudonné. Oui, vous avez bien entendu, hein, François Hollande aura réussi, vous voyez qu'il ne fait pas rien, à rassembler dans le même cortège certains membres de minorités et ceux-là même qui veulent les renvoyer chez eux en charter. Il a fait fort, hein, le François, sur ce coup-là.
Mais alors, d'où vient le mouvement ?
Alors que le mouvement se dit aconfessionnel et apolitique, les journaux, à l'instar de l'Express, ont décidé de s'intéresser aux organisateurs de cette manifestation, pas si neutre que ça. L'hebdomadaire affirme que le collectif est en majorité composé de membres du Printemps français, partie la plus extrémiste de la lutte contre le mariage homosexuel et dirigée par la très catholique Béatrice Bourges. Une origine que les organisateurs cherchent à cacher, alors que tous les partis politiques, ainsi que la Manif pour tous et les Bonnets rouges, ont refusé de défiler. Et il semblerait qu'ils ont eu raison, hein. La manifestation a dégénéré rapidement en fin de journée, entraînant émeutes et violences. 250 personnes ont été mises en garde à vue et 19 policiers blessés, dont un gravement à la mâchoire par un pavé. Le PS, par la voix de David Assouline, a bien sûr condamné les débordements, déclarant n'avoir aucune compréhension pour la haine de la République et affirmant que slogans homophobes, xénophobes, racistes, antisémites et champétainistes ont tout a été entendu dans ce cortège des haines et des extrémismes. C'est en effet ce que révélait le Huffington Post, qui va encore plus loin en publiant des photos de manifestants faisant le fameux geste de la quenelle ou encore le salut nazi. Le ministre de la Culture Stéphane Le Foll a également pris la parole. « Il y a des gens qui sont venus pour la violence. Ce n'est pas acceptable, dit-il. À droite, on prend ses distances avec le jour de colère. » Même si Luc Chatel a créé la polémique, l'ancien ministre sarkozyste a en effet déclaré comprendre la démarche des organisateurs, même s'il ne soutenait pas la manifestation. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a ensuite réaffirmé la position de son parti politique en indiquant que manifester, bien sûr, est un droit. En revanche, casser, proférer des slogans racistes et antisémites, c'est un délit. Il ajoute que ce que nous avons vu dimanche n'a rien à voir avec l'idée que je me fais de la République. Le pure player Atlantico, étiqueté à droite, va même encore plus loin, s'interrogeant sur le retour, 80 ans après, des ligues d'extrême droite. Pour beaucoup, les débordements et les violences de la manifestation ont brouillé le message politique et les revendications. France Info a interrogé un manifestant qui expliquait les raisons de sa présence.
La première, c'est tout ce qui s'est passé l'année dernière à propos du mariage homo, où on a fait les plus grandes manifestations de la Ve République et on a simplement eu un « c'est consistant » du président. Et la deuxième chose, à chaque fois que je passe sous un portique écotaxe, je me dis c'est exactement ça le système. C'est-à-dire, on privatise la levée de l'impôt et certains s'enrichissent sur le travail des autres. Voilà, ça, je trouve ça insupportable que 20% de la levée de l'impôt soit sur des marchés privés. Moi, ça m'insupporte, ça, voilà. Alors, ce qui est symptomatique, c'est que ça a été mis en place par Sarko et valorisé par Hollande. Voilà. Et donc, laissez-nous bosser, laissez-nous élever nos familles, nos enfants, foutez-nous la paix, quoi. Dégage, Hollande, dégage, va-t'en.
François Hollande cristallise donc tous les mécontentements. Le président, dans la tourmente après les différentes affaires qui lui sont tombées dessus, n'arrive pas à rassurer les Français. Les organisateurs de la manifestation envisagent d'organiser un nouveau rassemblement et les chiffres, mauvais, du chômage en décembre qui sont tombés hier ne devraient pas les décourager. Remarquons quand même que pour des manifestants s'exprimant pour certains au nom de Dieu, la pluie est quand même bien tombée à Paris sur dimanche. Hein. Peut-être faut-il y voir un jour de colère, oui, mais divin.
Joli, merci Pierre-Antoine, on te retrouvera la semaine prochaine et on termine ce sous-marin avec les plans sortis pour ce soir et demain préparés et présentés par Clarisse. Bonsoir Clarisse.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Donc ce soir au Shabada, c'est la 7e édition, la soirée Zik et Zoom sur l'économie sociale et solidaire, où les étudiants de l'UCO et de l'ESCA vous donneront des informations, des propositions de stage et d'emploi, puis après cela, un concert de Yes Indians, un jeune groupe angevin rock-pop. C'est commencé depuis 18h, mais si vous vous dépêchez, vous assisterez au concert, donc grouillez-vous. À 20h, au théâtre en bois à Angers, une projection des racines et des hommes et une rencontre avec Karine Massoni pour seulement 2€. Enfin, toujours le Bœuf Blues au Terroir Coco à 21h.
Et demain, qu'est-ce qu'on fait?
Demain, à 19h, le Shabada propose un apéro-concert, Sainte-Carole, pour écouter de la musique électropop. Toujours à 19h au Colisée, cours et soirée rock pour 5€. Musique toujours à l'espace culturel de l'Université d'Angers, La Brume Rose. Chansons et théâtre de comptoir, plus rencontre. Donc, un spectacle entre chansons, théâtre, spoken word et suivi d'une rencontre à 20h30. À la même heure, soirée jeu loup-garou au bar Welch. Puis pour finir, au thé rock coco à 21h30, concert de Nax en solo et pour l'accompagner d'un valet messenger, donc de la musique blues et folk au rendez-vous.
Merci Clarisse pour ces idées pour occuper nos longues soirées d'hiver. Voilà, il est l'heure de ranger les scaphandriers au placard. C'était Antoine ce soir à la technique, pardon, d'habitude c'est David. Merci Antoine d'avoir manié le sous-marin. Quentin, Pierre-Antoine et Clarisse m'ont accompagné en ce mardi. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet ou demain en rediffusion à 13h. À 20h tout de suite, vous retrouvez Perfusion, un magazine spécialement maladies sexuellement transmissibles, ça c'est sexy. Et à 21h, le Johnny Clash Show avec Paul Ramon et Johnny Clash. On vous laisse avec l'incontournable Bulle Sonore. L'équipe de Ciné Quanon évoque le festival Télérama qui commence demain à Angers. L'occasion de voir ou de revoir à nouveau les films phares de l'année 2013. Merci à vous d'avoir embarqué avec nous dans le sous-marin. On se retrouve jeudi à 19h. Bonne soirée sur campus et joyeux mercredi. Allez, bisous.
Dans l'actualité, on a aussi donc le festival Télérama. Avec une reprise de nombreux films de 2013. Antoine, tu peux nous parler un peu de...
Donc, ça se passe aux 400 coups. Pour ceux qui sont abonnés en fait à Télérama, il y a un petit coupon qui permet d'aller voir les films pour 3€. Donc, bon, pour les autres, ce sera le tarif normal des 400 coups, mais c'est toujours sympa d'aller revoir les films qu'on a appréciés pendant l'année. Comme film, moi je retiendrai Snowpiercer, qui n'était pas passé justement aux 400 coups cette année. Et donc ceux qui voulaient absolument le voir en VO sous-titré ont dû attendre et attendre encore sa sortie en DVD. Et donc c'est une occasion, une très bonne occasion d'aller le voir. En tout cas, moi j'y manquerai pas.
Moi, j'ai sélectionné deux films que j'avais pas vus, mais que j'avais entendu parler et qui m'avaient fait envie. C'était Emmat, donc en deux épisodes. Donc le premier, Chronique d'un rêve, et le deuxième, L'Exode, réalisé par Edgar Retz. Et donc c'est l'histoire d'une famille en Allemagne à peu près au 19e siècle. Le film est en noir et blanc et il y a parfois quelques touches de couleur et ça a l'air vraiment très beau et historiquement assez intéressant. Donc,
Pour ma part, moi j'irai voir Django Unchained, que beaucoup de gens ont vu. Hein. Dernier film de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christopher Waltz et Leonardo DiCaprio, donc, qui se passe dans le sud des États-Unis 2 ans avant la guerre de sécession et où on voit les pérégrinations d'un ancien esclave Django qui... va essayer de récupérer sa femme. Il va lui arriver pas mal de petits embêtements.
Moi, j'irais bien voir aussi, ils ont marqué un peu l'actualité de l'été dernier, L'Inconnu du Lac, qui avait été sélectionné à Cannes, si ce n'est primé, je ne sais plus, Un Certain Regard peut-être.
Oui, je crois. Ouais.
Il me semble bien qu'il y a eu celui-là.
Et peut-être que j'en profiterai pour surmonter ma réticence à aller voir La Vie d'Adèle et que on pourra...
Non, il est bien.
Oui, franchement, il est pas si mal. Hein.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.